qu'il soit devenu aujourd'hui une norme transversale qui régit donc l'ensemble des productions écrites, le paragraphe n'en demeure pas moins une invention moderne. Ce n'est pas que l'âge classique méconnaisse totalement cette forme de segmentation du discours, mais elle est loin de correspondre à un fonctionnement normatif dans le champ des écrits littéraires. On sait par exemple que le paragraphe est absent des essais de Montaigne, dans l'état que nous avons du texte. Même constat pour cet autre monument de la prose française que sont les premières lettres de Gay-de-Balzac, hein, pas de paragraphe dans les lettres de Gay-de-Balzac. Alors la situation est en revanche plus fluctuante pour la prose narrative du XVIIe, donc il arrive que le paragraphe soit absent des longs romans, des Scudéry ou de Gomberville, hein, mais tout dépend en fait des éditions. Voilà. Ainsi, la première édition in octavo de l'Ariane de Desmarets de Saint-Sorlin, un long roman, que personne n'a lu, à part une de nos collègues qui est la seule à lire ce genre de roman, mais moi je m'en parle que voilà. Donc l'Ariane de Desmarets de Saint-Sorlin est imprimée, cette première édition est imprimée sans paragraphe, alors que la seconde édition in quarto, revue et augmentée de plusieurs histoires, et finalement dans l'ensemble beaucoup plus raffinée, présente à la fois des illustrations et un découpage en paragraphe. Alors peut-être l'imprimeur pour des textes d'une telle longueur répugnait-il à multiplier les blancs typographiques et ne proposer cette option que dans des éditions plus luxueuses. De sorte que le paragraphe correspondrait, comme l'illustration, à une plus-value qualitative réservée aux éditions luxueuses et ne s'imposerait nullement comme une norme institutionnelle d'organisation du sens ou de la lisibilité. Le problème éditorial est en fait le plus délicat, à cette époque, je veux dire, dans la mesure où ni les normes typographiques ni celles de la ponctuation ne sont fixées. Il est souvent impossible d'établir avec certitude qui de l'imprimeur, éditeur ou de l'auteur prend l'initiative du découpage en paragraphe. Alors, doit-on y voir un effet de discrimination stylistique qui voudrait que le paragraphe ne s'impose que dans les genres sérieux de la prose du discours, la prose de discours, mais soit exclu des genres mineurs comme la lettre ou le roman, lesquels revendiquent traditionnellement l'humilité et la bassesse. Alors, même si ce type de clivage stylistique correspond bien à une réalité institutionnelle des belles-lettres au XVIIe siècle, il n'explique pas, par exemple, la présence de paragraphes dans la première édition du roman bourgeois de Furtière, emblème du genre narratif mineur, s'il en est. En réalité, il est probable qu'un inventaire, quoique fastidieux, de l'ensemble des productions en prose de l'époque, permettrait de prendre la mesure de la complexité de la situation. Il semble qu'au-delà des problèmes de hiérarchisation des styles, il soit préférable d'élargir la perspective d'analyse en prenant en compte les conditionnements culturels exercés par la tradition rhétorique. Il faut d'abord dire que les traités de référence ne sont d'aucun secours sur un tel sujet. Certes, le paragraphe est connu des auteurs de l'Antiquité, il semble correspondre à un signe de ponctuation marquant la fin d'un passage et appelé en grec paragraphos. Il apparaît sous la forme d'un tiret placé par le scribe en marge de la ligne où se trouve la fin de la phrase. Mais il ne fonctionne pas pour autant comme instrument de segmentation du discours. Et un rhéteur grec ou latin serait bien en peine de décider à quelle partie de l'art appartient à un découpage typographique, est-ce à la disposition ou à l'élocution, autrement dit, le paragraphe est-il affaire d'agencement des idées ou affaire de style. Non seulement l'art rhétorique ne peut rien nous enseigner dans ce domaine, mais on peut aller jusqu'à dire qu'il ne le doit pas, sinon à prendre le risque de compromettre la cohérence même de l'art rhétorique. Si en effet la construction du discours et la cohérence argumentative sont l'affaire de la disposition, à quoi peut bien servir une segmentation en paragraphe, sinon à manifester typographiquement de manière redondante ce que la technique est censée réaliser par elle-même. En d'autres termes, si le discours est construit selon les règles de l'art, nul besoin de paragraphe. Il faut aller plus loin. Chez Aristote, l'achèvement est certes une affaire de sens, mais c'est également, tout aussi crucialement, une affaire de rythme. Ce n'est donc pas le signe de ponctuation, le paragraphe, qui marque la terminaison d'une période, mais la clausule rythmique.
Ce qui est, je le cite ici Aristote, ce qui est arythmique, dit Aristote, est indéterminé. L'absence de rythme équivaut à une absence de limite, à une indétermination qui est vectrice de désordre, de chaos, ce que les Grecs appellent apeiron. L'auteur de la rhétorique prend soin de rappeler cet axiome. Je cite à nouveau Aristote, il faut que la fin soit marquée non par le scribe, ni le signe de ponctuation, mais par le rythme. Avant toute forme de ponctuation, c'est donc le rythme qui structure et borne la période. Le lien organique qui se noue entre rythme et achèvement rendrait inutile toute autre forme de terminaison du sens. Voilà peut-être pourquoi, chez des auteurs classiques formés par cette tradition rhétorique, la question des limites intradiscursives, dans la mesure où elle implique une symbiose entre rythme et sens, ne se pose pas fondamentalement en termes de signes graphiques. Absent des rares traités du XVIIe siècle, ce qu'il est convenu d'appeler à cette époque alinéa ne commence à être mentionné dans les tables des matières qu'au siècle suivant. C'est ainsi que le grammairien de l'encyclopédie Bozé procure quelques indications sur la nature et les règles d'emploi. C'est ma première citation que je ne vais pas lire intégralement. Il nous dit ceci, les points sont les plus fortes des ponctuations, mais ils ne marquent pas les distinctions les plus considérables, et il poursuit en disant que c'est l'alinéa qui est une sorte de super point qui, voilà. Alors, cette présentation est confirmée par Condillac, qui s'attache, conformément à l'orientation générale de son propos, à la relation entre le paragraphe et le mouvement de la pensée, qui est pour lui absolument central, c'est-à-dire le principe de ce qu'il appelle la liaison des idées. Voilà. Alors, voici ce que dit Condillac dans sa grammaire. Vous voyez par là que, dans le discours écrit, les alinéas contribuent à distinguer d'une manière plus sensible les différentes parties d'une pensée. Il marque où chacune finit, où chacune commence, et par cet artifice, elle se démêle beaucoup mieux. S'il faut distribuer dans plusieurs alinéas les différentes parties d'une pensée, il faut à plus forte raison séparer de la même manière plusieurs pensées différentes. Cependant, cette précaution nécessaire pour plus de clarté lorsque ce développement a une certaine étendue devient inutile lorsqu'il est fort court. Alors les pensées sont suffisamment distinguées par les points qui les terminent. Et il termine en disant « Une pensée qui demande un développement d'une certaine étendue telle que celle qui nous sert d'exemple forme ce que l'on appelle un paragraphe. » Et le mot là, qui ne figure pas chez Bozé, figure bel et bien chez Condillac, ce qui montre effectivement que à partir de cette époque, on commence en effet à identifier clairement cette réalité. Ainsi, l'alinéa n'est lui-même qu'une excroissance du point, une marque de ponctuation correspondant à une pause insistante, un repos, dit-il, plus considérable. Tandis que le point sépare les pensées entre elles, l'alinéa, lui, sépare les différentes parties d'une pensée, autrement dit, les différentes étapes d'un discours de longue étendue, quel que soit le genre considéré. Ainsi que le suggère bien l'exposé de Condillac, le paragraphe n'étant qu'une marque de ponctuation, les règles qui régissent son utilisation sont de même nature que celles du point. Tout comme le point distingue une pensée, un sens fini d'un autre, le paragraphe distingue un ensemble de pensées cohérentes d'un autre ensemble. Les règles sont donc dictées par la nécessité de borner des étapes de pensée et de contribuer de la sorte à la lisibilité du message. En d'autres termes, c'est la pensée qui commande le découpage et non un choix individuel d'auteur. Bien qu'elle soit formulée dans une optique rationaliste, cette conception se rattache à l'héritage rhétorique dont il a été question plus haut. Le discours, pour parler comme les cartésiens, n'est qu'un tableau de la pensée. Et toutes les segmentations typographiques qu'il fait apparaître sont celles de la pensée elle-même. Sous la plume de Condillac, l'expression « sens fini » n'est sans doute pas hasardeuse. Elle insiste, comme le faisait Aristote, sur la nécessité de déterminer le sens, c'est-à-dire de lui fixer un terme, une limite. C'est en ce sens qu'on peut parler d'une vision rhétorique du paragraphe, c'est-à-dire de la nécessité qui s'impose progressivement dans le champ de la production écrite de fixer une norme graphique permettant de visualiser les articulations du discours. Sans remettre en cause, et de nombreux textes en témoignent, je n'y reviens pas, le principe d'une limitation prosodique et rythmique, elle présuppose, et se distingue en cela de la tradition aristotélicienne, qu'il existe en outre deux marques de limitation sémantique du sens, le point et le paragraphe. Ce dernier apparaît donc clairement comme un instrument d'agencement des idées, et s'inscrit de ce point de vue dans une logique qui, rhétorique qui est celle de la disposition. Alors, c'est donc c'est un vraiment très rapide hein, aperçu historique, pas voilà. C'est cette conception qui semble prévaloir jusqu'au XIXe siècle, voilà. Sans exclure d'autres auteurs ni d'autres genres littéraires que cette communication que j'ai bornée au domaine réaliste ne permet pas d'explorer. On peut penser que le premier nom associé à une utilisation non rhétorique du paragraphe est celui de Victor Hugo. Non pas dans son premier roman de jeunesse, « En Islande », qui en tout point conforme à la norme d'usage de ce point de vue, mais dans un texte d'une portée idéologique décisive, « Le dernier jour d'un condamné ». Tout à la fois plaidoyer contre la peine de mort, journal intime, roman, ce texte, publié en 1829, anticipe sur la dimension protéiforme des sommes romanesques hugoliennes, ultérieures. Il se présente également comme la matrice formelle, inaugurale de la prose narrative de Hugo. C'est en effet dans ce texte que le jeu des alinéas et des blancs typographiques marque une rupture avec la norme héritée de l'âge classique. Une telle initiative formelle se justifie sans doute par le genre même du journal, affranchi de toute astreinte à un ordre discursif et en prise directe sur les réactions affectives du narrateur-personnage. Mais on ne peut être que frappé par ce choix de paragraphes volontairement concis et concentrés et par la généralisation corollaire d'une syntaxe averbale qui juxtapose froidement des séquences dont rien apparemment ne justifie la dissociation. Alors, j'ai reproduit ici trois extraits que j'ai pris dans ce texte, donc, pour avoir un échantillon un petit peu de la découpage. C'est ma citation numéro 3, donc. Donc, trois extraits, donc, du dernier jour d'un condamné. Donc, comptons ce qui me reste. 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. 8 jours d'oubli au parquet de la cour d'assises. Après quoi, les pièces, comme il dit, sont envoyées au ministre. 15 jours d'attente, etc. Donc, je ne poursuis pas. Le deuxième extrait, à nouveau, donc, dans la suite, finalement, tous ces extraits quasiment s'enchaînent, hein, de « Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamné aux frais et tout ce que j'ai il suffira à peine, la guillotine c'est fort cher, je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant, etc. Et enfin, le dernier extrait, c'est un descriptif du cachot, donc du narrateur-personnage. Donc, hein. Voici ce que c'est que mon cachot, 8 pieds carrés, 4 murailles de pierre de taille qui s'appuient à angle droit sur un pavé de dalle, etc. Donc, je ne lis pas pour gagner un peu de temps, voilà, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, dans le premier passage, la succession mécanique des paragraphes est associée au calendrier froidement administratif et arithmétique de la procédure de pourvoi en cassation. Dans le second, le découpage souligne le passage de la dérision et de l'ironie amère du début, la guillotine c'est fort cher, à un registre à la fois plus pathétique et plus poétique, ainsi qu'en témoigne le parallélisme grammatical du deuxième paragraphe. Et dans le troisième, le même système de segmentation s'applique à une topographie de cellules carcérales et apparente le passage à un descriptif de type technique et bureaucratique. On voit donc comment la multiplication des paragraphes, déjà dans ce texte, un texte finalement récent, je veux dire, dans la production hugolienne, hein, on voit donc comment la multiplication des paragraphes est organiquement reliée à un effet de sens séminal, non seulement de ce texte, mais de toute la littérature hugolienne, à savoir le principe de déshumanisation qui est constitutif du monde juridico-administratif et industriel moderne, principe qui est au cœur de toute son œuvre. Le découpage isole chaque cellule de sens, non pour créer des enchaînements, mais au contraire pour accentuer un effet de séparation, de coupure et de discontinuité. Dès lors qu'il apparaît sous la forme d'une succession de paragraphes simplement juxtaposés les uns aux autres, le réel administratif, juridique, topographique y est donné comme inorganique, désarticulé, et révèle ainsi à la fois sa dérision et son inconsistance absurde. On sait quelle fortune aura, dans la prose hugolienne ultérieure, cette utilisation de la dimension symbolique et mimétique du paragraphe. Alors, un texte tel que le dernier jour d'un condamné permet, dans ce début de 19e siècle, je n'ai pas fait le tour des textes, donc j'ai pris ce texte comme emblématique, mais peut-être y en a-t-il d'autres, permet dans ce début de 19e siècle de repérer une rupture fondamentale avec la tradition classique. Rupture qui articule le passage d'une conception, d'une conception rhétorique à une conception poétique du paragraphe. Dans la première, on l'a vu, le découpage en paragraphe est un point superlatif, un marqueur emphatique d'articulation du sens qui participe à la cohérence argumentative d'ensemble du discours. Dans la seconde, ce que j'appelle la conception poétique, dans la seconde, c'est maintenant la coupure elle-même qui fait sens, c'est le blanc typographique qui se charge d'une consistance d'autant plus problématique qu'elle transite par un effet de vide. Tandis que le paragraphe rhétorique consolide la logique du sens, le paragraphe poétique introduit une béance qui la fait vaciller. Ne donnons pas ici d'autres mots au sens poétique que celui proposé par Jacobson, auquel je me réfère ici. La fonction poétique, dit-il, je le cite, met en évidence le côté palpable des signes. Voilà comment il définit la fonction poétique. Et c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Le paragraphe fonctionne comme signe à part entière, au lieu de n'être qu'un blanc, ou si l'on veut, c'est un blanc qui fait signe. Alors peut-être l'hybridité de la prose hugolienne, qui marie volontiers le poétique et le prosaïque, explique-t-elle chez lui la présence de paragraphes comparables à des strophes, d'alinéas comparables à des vers blancs. Mais cette tendance à une poétisation de la prose, même si elle peut jouer un rôle non négligeable dans d'autres proses que la sienne, n'explique pas tout. Après Hugo, ou en même temps que lui, deux écrivains réalistes comme Flaubert et Maupassant inaugurent à leur tour une véritable poétique du paragraphe. Alors de nombreux travaux sur le style de Flaubert ont à juste titre insisté sur une dimension cardinale de sa prose, à savoir la phrase. Certes, Proust, un des premiers, peut-être le premier, commentant le fameux « Il voyagea » de l'éducation sentimentale, avait été sensible à cette autre particularité de l'écriture de Flaubert qui est le blanc. Et la formule de Proust est restée célèbre, hein, il dit « À mon avis, la chose la plus belle de l'éducation sentimentale, ce n'est pas une phrase, mais un blanc. » Voilà. Mais il convient de noter que cette remarque isolée intervient en fait après plusieurs pages consacrées à l'art de la phrase de Flaubert. Barthes, à son tour, prolongera cette approche en insistant sur ces deux croix de l'écriture flaubertienne, dit-il, que sont la répétition et la transition intraphrastique. Le manuscrit de Madame Bovary confirme en effet la présence de ces deux obsessions, l'une paradigmatique, l'autre syntagmatique. On voit ainsi Flaubert substituer un mot à un autre mot pour des raisons prosodiques ou sémantiques, ou réorganiser des séquences à l'intérieur des phrases pour gagner en fluidité. Mais un des nombreux enseignements qui se tire également de la consultation de ce manuscrit que nous avons aujourd'hui en ligne, c'est un très beau travail, qui se tire également de la consultation de ce manuscrit est qu'il ne fait apparaître aucune correction sur la disposition en paragraphe. Jamais Flaubert ne revient sur une segmentation, ne rajoute ou ne supprime une segmentation à paragraphe. Visiblement, chez lui, c'est parfaitement en place tout de suite. S'il hésite assez régulièrement sur le choix des mots ou des structures dans certains passages, en revanche, il ordonne son texte et découpe les séquences avec une indiscutable sûreté. Il peut certes arriver qu'il supprime un paragraphe entier, mais il n'introduit ni ne supprime de coupure dans le fil du discours. Si on en juge à la fois par l'abondance des paragraphes et par leur différence de volume, on repère chez Flaubert une attention esthétique, non moins obsessionnelle que celle qu'il voue à la phrase, à la question de l'agencement des séquences narratives. Il est certain que par bien des aspects, la segmentation du discours dans Madame Bovary se rattache à une pratique normative de l'écriture narrative. C'est bien sûr le cas des découpages liés à l'agencement chronologique des séquences et plus largement à l'organisation spatio-temporelle du récit. Comme d'autres romanciers, Flaubert use du paragraphe pour signaler une ellipse temporelle ou un sommaire, et des expressions du type « deux jours après » ou « le lendemain » abondent en début de paragraphe. De même pour les séquences descriptives qui s'ordonnent selon des repères topographiques marquée par des changements de paragraphe. Par exemple, la maison de Toth, on a intérieur, extérieur, rez-de-chaussée, premier étage. Donc à chaque fois, effectivement, le changement de paragraphe signale ces changements topographiques. Pour ne prendre donc que cet exemple, il n'en demeure pas moins que le paragraphe flaubertien enrichit indiscutablement la norme. Mais c'est surtout par d'autres caractéristiques que l'écriture de Flaubert innove. Non pas quand le paragraphe se justifie pleinement dans la norme narrative, mais quand au contraire il participe d'un choix d'écrivain. Quand on sait, Proust et d'autres après lui ont insisté sur cet aspect, quand on sait l'importance accordée à la fluidité dans sa prose, la segmentation d'une séquence homogène relève à première vue de l'anomalie. C'est pourtant ce qui se passe dans une série de scènes célèbres dans lesquelles le changement de paragraphe ne se justifie par aucune raison technique. Détachement d'un descriptif ou d'un passage au discours rapporté, séparation de différentes scènes narratives pour ne mentionner que quelques cas. Alors, dans les extraits que j'ai placés dans la citation donc 4, j'ai appelé citation 4, le changement de paragraphe obéit à d'autres exigences. Alors, je ne relis pas ces passages, sont tellement célèbres, ce sont des passages qui appartiennent à la première partie donc de Madame Bovary. Bon, c'est le fameux épisode des visites de Charles à la ferme des Berthaud. Mais finalement, ces changements de paragraphe extraits de deux chapitres consécutifs mettent en évidence la présence d'une technique narrative propre à Flaubert. Elle consiste à clôturer un paragraphe sur un resserrement de focale qui fixe le regard sur une partie du corps. J'ai souligné à chaque fois, effectivement, ça se fixe et ça, on resserre la perspective sur une partie, sur un détail de la physionomie d'Emma. Le regard de Charles, en l'occurrence, est celui du lecteur, puisque nous sommes dans un régime de focalisation interne. Mais ce type de point de vue n'est en rien requis, et ainsi qu'on le voit dans l'extrait que je cite en citation 5, d'accord, qui est en fait la noce des Berthaud, d'accord, dans le début de la noce des Berthaud, donc où Flaubert décrit les paysans qui viennent assister donc à la noce, voilà. Et on voit ici que nous avons une séquence tout à fait homogène, puisque Flaubert développe un long paragraphe où il dépeint finalement la collectivité des paysans, et puis alors que normalement sa description se poursuit, il change de paragraphe, vous voyez, et les chemises sur les poitrines bombées, vous voyez, donc il y a bien une séquence homogène d'un point de vue descriptif, mais un changement de paragraphe. Alors, ici, nulle autre raison ne semble justifier un blanc typographique au beau milieu de ce portrait collectif des paysans, sinon un resserrement de perspective sur les chemises et les visages des convives. Ici, la situation se complexifiant du fait de la présence d'un embrayage énonciatif marqué par un point d'exclamation. Comme des cuirasses, point d'exclamation. Alors, dans les clausules de paragraphes précédentes, celles de la citation précédente, il se dégage une constante obsédante qui consiste dans un resserrement du point de vue sur une partie du corps d'Emma. Bon nombre de commentateurs ont déjà insisté sur cette érotisation du regard de Charles, sans qu'il soit besoin d'y insister à nouveau, mais il importe d'être sensible au rôle particulier que joue le changement de paragraphe qui crée une sorte de point de fixation du sens. Chaque fin de paragraphe se charge d'une densité signifiante qui oblige en quelque sorte le lecteur à une pause réflexive. La dernière phrase est comme suspendue et le blanc typographique crée un véritable appel de sens. On voit dès lors que la segmentation répond moins à une exigence d'organisation discursive qu'à une sorte de code herméneutique qui invite le lecteur à l'approfondissement du sens. Cette fonction herméneutique du paragraphe est parfois associée à une autre utilisation. Flaubert use en effet fréquemment du paragraphe pour signaler un changement de perspective ou de point de vue. Le chapitre des noces au Berthaud se conclut ainsi sur deux paragraphes très brefs, dont le premier est justifié par un changement de repère spatio-temporel, c'est la citation numéro 6. Citation numéro 6. Donc, monsieur et madame Charles arrivèrent à Toth vers 6 heures. Les voisins se mirent aux fenêtres pour voir la nouvelle femme de leur médecin. Et un nouveau changement, la vieille bonne se présenta, lui fit ses salutations, s'excusa, etc. En un seul changement de paragraphe, les jeunes époux sont devenus Monsieur et Madame Charles. C'est-à-dire que, avant même que l'existence de la bonne soit mentionnée, c'est son point de vue qui enveloppe déjà la perception que nous avons des deux héros. Non plus Charles et Emma, mais un couple bourgeois que l'on désigne par un appellatif de déférence. Alors, cette manière, finalement, de signaler les changements de perspective et de point de vue, Flaubert utilise assez régulièrement le changement de paragraphe, précisément pour indiquer qu'il y a un changement de point de vue. Signalons, pour finir, une autre utilisation suspensive du paragraphe. Elle est particulièrement sensible dans ces moments romanesques que Genette a appelés les silences de Flaubert, c'est-à-dire des passages où toute action se fige pour laisser place à une pause contemplative totalement détachée du contexte immédiat. Je vous renvoie, excusez-moi, à l'article de Genette, donc les silences de Flaubert. Il se crée alors un lien fusionnel ineffable entre le personnage et le paysage, qui soustrait pour un instant le premier à la médiocrité de sa condition ou la médiocrité même de sa situation. Alors, j'ai pris un extrait ici, mais il y en a d'autres. Hein. Puis considérons donc Emma, c'est dans les promenades avec sa chienne Jali, donc voilà. Hein. Donc puis considérant la mine mélancolique du svelte animal qui bâillait avec lenteur, elle s'attendrissait et le comparant à elle-même lui parlait tout haut comme à quelqu'un d'affligé que l'on console. Ici changement de paragraphe. Et on voit, il arrivait parfois des rafales de vent, brise de la mer qui roulant d'un bond sur tout le plateau du pays de Caux apportait jusqu'au loin, etc. Alors, la consultation du manuscrit est très intéressante ici, sur ce passage, parce qu'on s'aperçoit que Flaubert a énormément corrigé ce passage. La consultation du manuscrit révèle que Flaubert a corrigé, il supprime en particulier des paragraphes qui introduisaient davantage de bruit. Voilà. Par exemple, il a supprimé un paragraphe qu'il avait ébauché, qui disait ceci. Dans le sentier derrière, elle entendait par intervalle un pas lourd marcher, le bruit des sabots sur la poussière coupé d'un rythme lent, le silence de la campagne. Et il souligne d'ailleurs de la campagne dans le manuscrit. Plus loin, il avait prévu en fait de prolonger l'échange verbal avec Jali. En fait, elle discute avec la chienne, enfin, il avait prévu un dialogue, et là il l'écourte, en définitive, il supprime tout ce passage-là. Et dans la version finale, c'est en quelque sorte au blanc typographique qu'il appartient de signaler ce changement de climat et de matérialiser le silence de la campagne, fait de sifflements, de bruissements et de murmures tel qu'il est dépeint ici dans la version finale. Alors, une étude évidemment des spécificités esthétiques du paragraphe flaubertien exigerait bien sûr un parcours beaucoup plus approfondi. Mais si incomplet soit-il, l'examen qui précède permet peut-être d'en mesurer l'intérêt et l'importance. Si elle est nettement moins sensible chez des héritiers tels que Goncourt ou Zola, cette poétique du paragraphe s'épanouit de façon spectaculaire dans les nouvelles de Maupassant. Il est certain que l'économie narrative n'est plus la même. La concision impose aux nouvellistes une parcimonie, un art de l'ellipse et du sommaire, un agencement rigoureux des séquences narratives. On comprend dès lors quel rôle éminemment structurant peut jouer le paragraphe dans un tel genre. Le paragraphe de Maupassant fonctionne bien sûr comme outil d'enchaînement chronologique de séquences narratives. C'est ma citation numéro 8, donc. Je ne la reprends pas. Simplement... Le paragraphe permet ici de distinguer les séquences de discours rapportés des événements narratifs au passé simple, et la succession très resserrée de brefs paragraphes crée un effet d'accélération du temps et de concentration de la durée très caractéristique de la prose des nouvelles de Maupassant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que dans le sillage de Flaubert, Maupassant se plaît également à créer de brusques changements de climat en ménageant des îlots méditatifs liés à une contemplation du paysage. Il arrive fréquemment que le changement de paragraphe corresponde à un changement de point de vue, voire à un point de vue indécis et flottant. Ainsi, dans l'exemple suivant, extrait de Boule de Suif, l'hypothèse selon laquelle le spectacle dépeint dans le paragraphe central est perçu du point de vue des occupants de la voiture n'est pas à exclure. Hein, c'est le fameux « la porte subitement se ferma, Tout bruit cessa, les bourgeois gelés s'étaient tus, ils demeuraient immobiles et roidis, et donc changement de paragraphe, un rideau de flocons blancs ininterrompu miroitait sans cesse en descendant vers la terre. Et on retrouve un petit peu d'ailleurs ce fameux changement avec la méditation sur le paysage. Alors, comme chez Flaubert, ces enclaves ouvrent au beau milieu d'une scène homogène une fenêtre sur une perception inspirée du paysage, comme si le sublime s'invitait au beau milieu du prosaïsme social. Ainsi qu'en témoigne ce paragraphe phrase, hein, parce que c'est une phrase à lui tout seul, le registre stylistique de la prose s'élève lui-même et contraste nettement avec le minimalisme grammatical du paragraphe précédent. Enfin, si l'écriture de Maupassant contribue à enrichir ce qu'il appelle l'illusion réaliste, puisque c'est sa formule célèbre, bonjour, excusez-moi. L'illusion réaliste, c'est sans doute par l'importance qu'il confère à la dimension visuelle dans la restitution des scènes ou des tableaux. Alors, dans cette perspective, le paragraphe joue chez lui un rôle crucial. Alors, j'ai repris un passage qui me paraît très caractéristique. Ici, c'est le fameux « Le cocher avait allumé ses lanternes, elles éclairaient d'une lueur vive un nuage de buée au-dessus de la croupe en sueur des timoniers, etc. » Et alors, on ne distinguait plus rien dans la voiture. Ensuite, des petits points de feu parurent en avant sur la route. C'était haute. La portière s'ouvrit, un bruit, etc. Bien que la diligence, voilà. Alors, je ne vais pas relire intégralement, parce que nous sommes pressés, mais pour qui souhaiterait transposer un tel épisode au cinéma, nul besoin de script. L'écriture de Maupassant donne toutes les informations utiles. Elle précise les éclairages, les sources de lumière, les points de vue, les angles, bref, tout ce qui est indispensable à une visualisation de la scène. Les segmentations de paragraphes orchestrent tous les changements de plan. Alterne ainsi point de vue du cocher et des passagers, la scène s'achevant sur le point de vue conjoint de l'aubergiste et de l'officier allemand qui scrute l'intérieur de la voiture. C'est à la lecture de ce type de passage que l'on mesure à quel point Maupassant a radicalisé le principe du réalisme subjectif initié par Flaubert. Alors, impossible dans l'espace de cette contribution d'envisager une étude plus approfondie et plus complète. Je me bornerai à repréciser la perspective d'analyse qui a été la mienne, donc. Tandis que le blanc typographique fonctionnait comme simple indicateur de liaison et d'enchaînement du sens dans la conception que j'ai nommée rhétorique du paragraphe, la prose du XIXe siècle invente une autre stratification du sens. La segmentation en paragraphe fonctionne comme un véritable indicateur métadiscursif qui signale un certain nombre d'opérations formelles caractéristiques de la narrativité moderne. Il peut arriver dès lors, qu'elle correspond à un code herméneutique, que cette segmentation devienne elle-même vectrice d'une tension constitutive de l'écriture réaliste, en tout cas de Flaubert et Maupassant, à savoir la tension entre récit et méditation, ou entre l'enracinement dans le prosaïsme et le détachement contemplatif. Voilà, on est terminé.